La Bible, parfum de scandale, une émission produite par Radio FM+, présentée par Babette Soulier-Laporte et Luc Olivier Bossé.
La Bible, parfum de scandale, une nouvelle émission qui vous est proposée par Radio FM+. Et pour animer cette émission, eh bien, j'ai la joie aujourd'hui, chères auditrices, chers auditeurs, d'accueillir ici dans le studio Babette Soulier-Laporte. Bonjour Babette.
Bonjour Luc-Olivier.
Alors Babette, si je devais vous présenter auprès de tous les auditeurs, je dirais que vous êtes une personne qui aimait la peinture, vous êtes une personne qui aimait lire, vous êtes une personne qui aimait aussi apprécier les grandes balades dans les belles garrigues, dans les Cévennes. Et puis, dans ces moments-là, quand on peint, quand on lit, quand on se promène, émergent des questions. Et notamment, là, aujourd'hui, c'est souvent toutes ces questions qui tournent autour de la Bible. Puisque depuis quand, d'ailleurs, est-ce que vous fréquentez les écritures bibliques ?
Depuis toujours, j'ai l'impression. Enfin, depuis, oui, au moins mon adolescence. Et c'est vrai que je suis contente de pouvoir poser des questions en direct à un pasteur, Luc Olivier, donc, qui est pasteur à l'EPUMA, l'Église protestante unie de Montpellier. Parce que lors de ces sermons, j'ai trouvé sinon des réponses, du moins des perspectives sur des choses qui me dérangent depuis tellement longtemps concernant ces textes que nous aimons beaucoup, dans lesquels nous trouvons plein de choses qui nous nourrissent, mais qui en même temps ont un petit parfum de scandale quand même.
Quand même. D'ailleurs, cette idée de faire une émission de radio avec ce titre, La Bible, parfum de scandale, eh bien, je crois que c'est une idée que vous portez depuis longtemps, que tu portes. Allez, je vais te
oui,
tutoyer.
Ça fait, très bizarre.
Ça fait très bizarre de se vous voyez comme ça sur les ondes, alors que dans la réalité, on se tutoie. Donc, tutoyons-nous. Oui, la Bible parfum de scandale, c'est un projet que tu portes. Et cette idée du titre, d'ailleurs, elle t'est venue comment ? Pourquoi ce titre ?
Alors, ce titre, parce que, bon, semble-t-il, Dieu est amour. Dans Jean, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Et la Bible, même dans ses éditions protestantes, en fait, est intitulée la Sainte Bible. Et nous, les protestants, ne sanctifions pas à tout va, on va dire.
C'est d'ailleurs peut-être la seule expression, ou des fois on parle de Sainte Seine aussi.
Sainte Seine, oui.
Mais pour les choses très importantes, c'est vrai que les protestants, dans la tradition, ont gardé l'expression sainte. Ou
sainte, ouais. Tout à fait, c'est vrai. Et donc, enfin, quelle que soit la définition de saint, on pense à des concepts comme la pureté, la perfection, l'exemplarité, l'intangibilité, finalement. Donc, c'est au fond une parole qu'on ne pourrait pas contester, la Bible.
Parce que la Bible est sainte, donc du coup, elle est parfaite.
Elle est parfaite, et donc, on n'a rien à reprocher à quoi que ce soit à un texte ou à un autre. Or, ce livre, en fait, ces Biblia, en fait, dans lesquels nous recherchons finalement la manifestation de l'amour de Dieu et l'expression de la fraternité entre les hommes, il y a des fois où, franchement, on a du mal à le trouver parce que c'est un livre des livres qui n'évacuent rien du côté sombre de l'existence, des fratricides au viol, des incestes aux guerres, de la xénophobie à la violence. La liste est longue.
Ouh là là, mais il ne faudrait pas trop la lire, alors, la Bible.
Eh bien, ils servent parfois d'argument à ceux d'entre nous qui sont agnostiques ou athées, effectivement. Donc, et honnêtement, je trouve qu'une telle lecture est dérangeante, même pour les croyants, qui ont souvent l'impression que leur pasteur balaye un peu ses textes sous le tapis, avec deux petites astuces, si tu me permets.
Tu connais les astuces des pasteurs, magnifique.
Je ne sais pas, mais à force de les entendre. Donc, il y a une technique stylistique, en fait. Donc, on coupe un peu avant et un petit peu après, là où ça gêne, et puis finalement, on ne prend que le côté lumineux. Aimons-nous les uns les autres. Bon, parfait, très bien. Moi, ça me va aussi, mais enfin, voilà. Donc, il y a une petite astuce stylistique. Et puis, il y a une explication parapluie, alors type théologique, historique, etc. Bon, le Christ arrive, c'est la nouvelle alliance, la Bible retombe sur ses pieds.
C'est voilà. Ça, tout ce qui était avant, c'est là où on parle justement des crimes, des incestes et tout voilà. Ça. Puis une fois que le Christ est arrivé, tout va bien.
Tout va bien, voilà. Donc,
ça te convient pas en fait.
Ben, je trouve que j'aimerais bien aller un peu plus loin avec toi parce que je suis sûre que tu as des idées là-dessus et des réponses en fait que nous paroissiens, voilà, lambda, on peut pas trop approcher parce qu'on peut trouver des explications anthropologiques, des explications explications psychologiques, des explications, Caïn et Abel sont agriculteurs et puis bergers. Enfin, on peut toujours. Mais ce que j'aimerais, c'est qu'on arrive à sortir par le haut de ces textes si dérangeants, justement, et que tu puisses nous guider un peu vers quelque chose de plus réconfortant. Et voilà, voir ce que ces textes finalement, enfin les réactions à ces textes disent à la fois de nous et de Dieu.
Oui.
C'est ce qui serait, me semble-t-il, intéressant. Voilà.
Mais pour pouvoir accoucher de ce que tu ambitionnes, il y a besoin de questions, il y a besoin d'interpellations, il y a besoin d'arrêts. Parce que tu sais, les pasteurs, des fois, quand ils sont lancés, ils peuvent partir et ils peuvent perdre le fil. Et ils ont besoin, chaque pasteur, je crois, a besoin de quelqu'un, de personne qui l'interpelle. Et je crois que c'est dans la rencontre entre une interpellation et une quête commune en se frottant aux Écritures, que des réponses adviennent. Mmh. Et que je pense que tu me mets trop de... Comment dire tu me fais trop d'honneur de dire « j'aurai des réponses ». Moi, je pense que les réponses, elles surgissent d'une conversation et qu'elles n'ont pas pour but de donner le dernier mot. Par contre, elles ont... pour but, pour ambition, d'être ce relais qui nous donne une petite lumière qui nous permet de continuer la quête. C'est une quête qu'on a toujours à reprendre.
Bien sûr, tout à fait. Est-ce qu'on aborde les exemples de ce qui nous paraît scandaleux ou
est-ce que je te partage aussi comment j'entends ce titre de l'émission?
Oui, bien sûr, bien sûr.
La Bible parfum de scandale. Hein, qu'est-ce que ça éveille en moi? Parce que quand tu m'as proposé ce titre, je l'ai trouvé très intéressant. Justement, comme tu le disais, Dieu est amour. Alors, c'est écrit dans les Écritures. On a tous une image positive de Dieu. Simplement, dès qu'on gratte un peu, et même dans le Nouveau Testament, même dans des textes comme la lettre de Jean où il est dit « Dieu est amour », il y a des éléments qui sont rugueux. Il y a des ruptures, il y a des choses qui nous dérangent. C'est ces petits cailloux qui se mettent dans nos souliers qui empêchent qu'on puisse aller là où on aimerait aller. D'ailleurs, il y a des fois des formulations aussi, la manière de dire les choses. C'est compliqué ou c'est haché. C'est pas ces récits qu'on a maintenant quand on lit un roman aujourd'hui où il y a une fluidité qui est des fois extraordinaire. Et on est pris dans le mouvement du récit. Souvent, avec les Écritures, il y a des ruptures, il y a des choses qui dérangent, qui fait qu'on en a tellement entendu parler qu'on connaît presque déjà la suite, on a envie d'aller rapidement à la suite. Mais quand on se frotte au texte, on est comme arrêté, stoppé, parce que, tiens, c'est mal écrit, on a envie de dire. Mais j'aurais jamais dit les choses comme ça. Hein? Et du coup, ça éveille en nous de la perplexité, tout ça. Voire même du soupçon. Du soupçon. Et à l'heure de tous les complots, on pourrait se dire, mais ces gens qui nous parlent de la Bible, est-ce qu'ils nous disent tout? Ces pasteurs qui font des prédictions, est-ce qu'ils nous disent tout? Est-ce qu'ils ne sont pas en train de nous déformer un petit peu les choses pour faire passer un message que tu disais justement positif, quoi? Est-ce qu'on n'aurait pas simplifié? Est-ce qu'on n'aurait pas réduit? Est-ce qu'on n'aurait pas raboté les choses? Sous-entendu, les gens ne sont pas capables de comprendre. Il faut donner quelque chose de très accessible. Donc, sous prétexte que les personnes ne sont pas assez éveillées pour accepter cette complexité des Écritures, on fait quelque chose d'un peu frelaté, c'est peut-être trop fort, mais tu vois, aseptisé. Oui. Bon. Donc, du coup, le mot scandale, on pourrait le dire, c'est peut-être ça un scandale, c'est de réduire les choses. Mais il y a quelque chose de scandaleux dans la Bible, ça c'est vrai, il y a quelque chose qui nous dérange. Parce que le mot scandale d'ailleurs, tu sais d'où il vient?
Non, pas du tout.
Il vient des Écritures bibliques. Il vient des Écritures bibliques et en fait, le mot grec scandalon, scandalon, qui a donné le français scandale, ça évoque un piège qui est sur le chemin. Ça évoque un showstrap. On se promène.
Ça me plaît.
Ça te plaît?
Et oui.
Ah bon, pourquoi?
Parce que c'est quelque chose justement qui... Moi, je voyais... pour moi, cette idée de scandale, c'était moins une histoire de morale, en dire « Oh, c'est scandaleux de faire telle ou telle chose », c'est pas ça. C'était obstacle à la foi.
Ah ben voilà.
Voilà.
Et ben
pour
c'est
moi,
ça.
C'est ça.
On
qui est le
d'avancer
plus gênant, voilà.
Sur quelque chose qui
paraît
soit fiable,
sûr. Voilà.
Sûr,
ouais.
Hein, il faut que la. Ouais. D'ailleurs, c'est ce qu'on attend des fois de la religion chrétienne. Ça fait 2000 ans qu'elle existe.
Ouais.
Bon, il faut que ce soit solide, sûr. On se dit, si on retourne à la religion chrétienne, au moins ça, c'est une religion qui a une histoire, quoi. Hein, on nous dit pas. Bon, et ben là, il y a l'idée de chausse-trappe. Il y a l'idée de. Il y a des choses qui sont comme des pierres d'achoppement, des pierres qui nous font trébucher. Et d'ailleurs, dans l'Évangile,
oui.
Dans le Nouveau Testament,
oui.
Donc dans l'Évangile selon Marc, au chapitre 9, verset 42, il est écrit, mis dans la bouche du Christ, « Si votre main vous est un sujet de scandale, coupez-la. »
C'est vrai, oui, tout à fait.
Hein? Ouais. Et donc, la main ou les yeux, il y a une parole radicale là pour dire « Tiens, si ma main fait que ça devient un chausse-trappe qui fait que ça me déstabilise moi ou ça peut déstabiliser les autres, eh bien, à quelque part, pour me protéger, il vaudrait mieux
la couper.
C'est-à-dire, en gros, le scandale, hop, dès qu'il surgit à quelques moments dans notre existence, eh bien, il faudrait tout de suite fermer la porte et puis l'éviter, quoi.
Hein? Oui.
On a peut-être... Après, on pourrait interpréter ce texte une fois dans nos émissions parce qu'il a des choses très intéressantes à nous dire. Peut-être c'est aussi pour nous dire... il y a besoin effectivement de se méfier de ce qui peut être scandaleux. Et puis des fois, il faut peut-être accepter qu'il y a quelque chose en nous dont il nous faut nous détacher pour continuer la route. Et quand il dit « coupe la main », c'est pas cette loi barbare qui dit « t'as volé, alors du coup on te coupe la main pour te faire comprendre que ta main qui a été objet de scandale, eh ben, par ta main on va te punir ». C'est pas ça l'idée du Christ. Mais c'est de dire ton image de toi qui pourrait être belle, qui pourrait être parfaite, tu t'imagines toujours que tu es quelqu'un de bien-pensant, quelqu'un qui fait tous ses efforts et tout ça, eh ben, il faut accepter des fois que cette image de toi que tu peux avoir, elle peut être un peu écornée, elle peut être un peu fissurée, parce qu'on charrie tous avec nous des mains, des yeux qui sont objets ou porteurs de scandale. Donc accepte cette réalité de toi. Tu n'es pas parfait, et en faisant ça, tu sois plus léger pour continuer à vivre en te sachant aimé de Dieu. Ça pourrait être une interprétation.
Oui, tout à fait. Hein? Oui, très intéressant.
Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas dans les Écritures quelques... paroles, récits qui pourraient être des pierres à achoppement à nos yeux, à nos oreilles. Est-ce qu'il n'y aurait pas une utilisation des Écritures qui pourraient être des pierres d'achoppement, des pièges? Est-ce qu'on ne peut pas aussi des fois utiliser la Bible comme une parole qui, alors que normalement elle devrait nous aider à penser, elle devrait nous aider à fortifier en nous le respect, la confiance en l'autre, la bienveillance vis-à-vis de l'autre, eh bien, il n'y aurait pas une utilisation des Écritures qui peuvent devenir des pièges qui, sous couvert de ses bonnes intentions, nous conduisent à l'inverse. Au lieu de nous libérer, nous ouvrir à la vie, eh bien, une utilisation des Écritures qui, finalement, nous enfermerait dans la peur ou dans la crainte, dans la superstition, dans le rejet de l'autre. C'est pour ça, quand on dit la Bible parfum de scandale, c'est qu'il peut y avoir tout ça dans les Écritures ou dans la lecture qu'on en fait.
Surtout dans la lecture qu'on en fait, oui, c'est sûr.
Surtout.
C'est sûr. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais il y a beaucoup de textes, justement, revenons à nos moutons, puisque avec Caïn et Abel, je trouve que, voilà, si on veut trouver des exemples de textes proprement scandaleux, notamment dans l'Ancien Testament, pour commencer avec cette partie-là, voilà, il y a Caïn et Abel, il y a Abraham-Isaac. Franchement, Abraham-Isaac, quel père de sang-froid accepterait ce diktat, même si, évidemment... Il se passe des choses très très bien après. Bon, Lot et ses filles, enfin, je veux dire...
Tu parles de quel diktat, là ?
De demander de sacrifier son fils.
Oui.
Pour, perso, moi, mon cœur de mère, non. C'est non, c'est juste non, voilà.
Bien sûr.
Voilà, et c'est ça qui est très fort dans la Bible, justement, à mon sens, c'est que ça part de choses qui sont inacceptables, pour faire accepter, non pas inacceptables, puisque la situation change et... Abraham ne sacrifie pas Isaac, mais pour expliquer quelque chose en partant de l'émotionnel, en partant de ce que les gens ressentent au début comme rejet. Et après, évidemment, voilà, ils peuvent aller, grâce à la foi, grâce à la grâce, si je puis dire, se rapprocher de Dieu, justement, qui n'est pas du tout un Dieu, ni vengeur, ni... voilà. Mais ce sont des pierres d'achoppement quand même sur le chemin. Voilà.
En tout cas, quand tu en parles là, j'entends que pour toi, ce récit, par exemple, d'Abraham et Isaac, où Abraham conduit son fils et il répond à une sorte d'appel intérieur. Hein. Les Écritures disent que c'est le Seigneur qui lui a demandé de prendre son fils et puis d'aller accomplir un sacrifice. Et j'entends que quand tu racontes ça, il y a à la fois encore l'indignation qui te saisit. Et puis, je sens aussi que tu as réfléchi à tout ce texte, tu as essayé de comprendre un petit peu le sens, quel sens il pourrait avoir.
De lui donner du sens, oui, tout à fait.
Ah ouais, c'est tout un cheminement. On n'en arrive pas comme ça d'un claquement de doigts.
Tout à fait. Donc, est-ce qu'on commence par exemple par Caïn et Abel ? On peut parler de Caïn et Abel, par exemple, ou c'est un peu tôt ?
Tu vois du scandale dans Caïn et Abel ?
Oui.
Ah bon ?
Bah oui, c'est quand même le premier meurtre de l'histoire humaine. C'est un fratricide, qui plus est. Alors, qui sont quand même les fils d'Adam, le terreux, et d'Ève, la vivante. Ça fait quand même beaucoup, la matrice et le souffle.
Oui.
De quoi accouche-t-il ? De deux frères dont l'un tue l'autre. Ça me paraît, un grand, grand scandale. Oui, absolument.
Oui.
Voilà.
Ah oui, par rapport à l'image.
Lisons-le, on verra ce qu'en pensent les auditeurs, justement.
Ah, on va le lire. Hein. Parce qu'effectivement, là, on est tout de suite dans une situation un peu compliquée, on va dire.
Quand même.
Donc, c'est dans le chapitre 4 du livre de la Genèse. Quand tu parlais du début de l'humanité, c'est au fond dans le premier livre de la Bible, dans les premiers chapitres, dans les premiers récits, pour dire que là, il y a une sorte de figuration, Caïn, Abel, qui sont, comme tu le disais, les enfants, les fils d'Adam et Ève, ce couple primordial. Donc là, c'est une façon de dire, à l'origine, il se passe quelque chose. Hein. On n'est pas dans l'historicité, là, on est vraiment dans le symbolisme des récits bibliques. Donc, qu'est-ce que nous dit ce texte, chapitre 4 du livre de la Genèse, à partir du premier verset ? De son union avec Adam, Ève, sa femme, devint enceinte. Elle mit au monde Caïn et dit alors, j'ai acquis un homme grâce au Seigneur. Ève donna ainsi le jour au frère de Caïn, Abel. Abel fut berger de petit bétail et Caïn, lui, cultivait le sol. Au bout d'un certain temps, Caïn apporta des produits de la terre en offrande pour le Seigneur. Abel, de son côté, apporta des agneaux premiers-nés de son petit bétail, dont il offrit au Seigneur de très beaux morceaux. Le Seigneur accueillit favorablement Abel et son offrande, mais le Seigneur n'accueillit pas favorablement Caïn et son offrande. Caïn en éprouva une profonde irritation. Il en fut abattu. Le Seigneur lui dit, « À quoi bon te fâcher et être abattu ? Si tu agis comme il faut, tu reprendras le dessus. Sinon, le péché est à ta porte comme un monstre à l'affût. Le péché désire te dominer, mais c'est à toi d'en être le maître. » Cependant, Caïn s'adressa, parla à son frère. Quand lui et son frère furent au champ, Caïn se jeta sur son frère Abel, et le tua. On va s'arrêter là pour aujourd'hui ?
Oui, ça me paraît suffisant déjà, honnêtement.
Alors, c'est quoi le scandale pour toi là-dedans ?
Ce sentiment d'injustice que Dieu accepte le sacrifice d'Abel et pas celui de Caïn. Ça n'est pas expliqué dans le texte pourquoi il accepte l'offrande de l'un et pas l'offrande de l'autre. Il y a eu des petites explications du genre c'est la première expérience de l'humanité vis-à-vis de l'inégalité, de l'injustice. Bon, moi, ça me paraît un peu court, ça, de dire que c'est juste parce que Dieu veut montrer ce que c'est que l'injustice.
Parce qu'Abel en est mort, quand même. Hein.
Voilà. Après, il y a eu j'ai trouvé ce genre d'explication aussi où le bétail, c'est ce qui a toujours plu aux dieux, puisqu'il y avait des sacrifices humains avant, enfin, des sacrifices animaux, pardon. Et donc, c'est ce qui plaît à Dieu. Et donc les immolés montrent que Dieu règne sur toute la création, y compris les animaux. Bon. Et donc, oui, ce que je voulais dire aussi, c'est que ce qui me paraissait, moi, quelque chose d'intéressant, c'est que, pour une fois, Saint-Augustin, que je trouve, en général, je ne trouve pas trop ce qui m'intéresse chez lui, mais il dit donc que Dieu considéra les dispositions intérieures de l'un et de l'autre. Voilà, ça, j'ai trouvé ça assez intéressant.
Ah, et qu'est-ce que tu trouves intéressant là-dedans?
C'est plus intéressant que de dire, par exemple, il y a aussi l'idée que les sacrifices, par exemple, notamment d'animaux, permet de canaliser la violence qui est dans les hommes. C'est plus facile qu'avec les gerbes de blé, on est d'accord. Hein. Mais là, les dispositions intérieures, il est dit dans la Bible qu'effectivement, ça n'est pas offert de la même façon, que l'attitude d'esprit n'est pas la même. En revanche, on ne sait pas ce que c'est cette différence d'attitude d'esprit.
C'est ça.
Ce n'est pas dit.
C'est ça.
Donc, j'ai besoin que tu me le dises.
Ah. Eh bien, écoute, voilà. On va écouter une chanson, un morceau. Là aussi, un morceau mythique de Bruce Springsteen. Hein, et le titre, c'est
Adam raised a Cain. Adam a élevé un Cain.
C'est ça. Et donc, pour voir que cette histoire, elle se trouve partout, même dans la musique.
Father held me to his side as
La Bible, parfum de scandale. Nous sommes dans une nouvelle émission sur Radio FM+, une émission qui est animée par Babette Laporte-Soulier, Luc-Olivier Bosset, pasteur. Et l'idée, c'est de revisiter certains textes qui font partie des écritures bibliques, mais les textes sans gommer ce qui est rugueux dans ces textes-là, sans gommer ce qui peut être pour nous un scandale, une pierre d'achoppement, un chausse-trap, un piège. Et au contraire, en se frottant au texte, on découvre parfois quelque chose qui nous dépasse un peu notre imagination. Alors aujourd'hui, nous sommes sur ce récit fameux là, de Caïn et Abel, où on vient de le lire, où Caïn, dans sa colère, on va dire, tue son frère Abel. Hein. Et Babette, tu nous disais justement que dans ce récit, il y avait quelque chose que tu trouvais de scandaleux, c'était cette attitude de Dieu, en fait, qui est à l'origine de la colère de Caïn.
Tout à fait. Et juste pour quelques petits mots sur la musique que nous venons d'entendre de Bruce Springsteen, donc Adam Raised the Caïn. Adam éleva un Caïn. Il y a deux lignes sur lesquelles qui sont en lien avec ce que tu viens de dire, Luc-Olivier d'ailleurs, qui disent You're born into this life paying for the sins of somebody else's past. C'est-à-dire que le côté atavique du péché qui fait qu'on tue et qu'on peut tuer. Donc c'est quelque chose qui est important pour ce sentiment d'injustice que je ressens, puisque est-ce que ça serait pas sa faute au fond d'avoir tué son frère? Est-ce que ces dispositions intérieures que Dieu finalement ne reconnaît chez l'un et pas chez l'autre, il en serait à la limite pas responsable?
C'est ça.
C'est ça qui est difficile.
Et oui,
trouve.
Et puis cette idée aussi que Caïn finalement, il représente, vu qu'il est placé à l'origine, il représente cette colère, cette violence qui est comme atavique. Hein.
Tout à
et,
fait.
Et quand il dit Adam a élevé un Caïn, l'idée de Caïn est très négative.
Hein. Tout à fait. Ah oui, Caïn est toujours représenté d'ailleurs comme le mal et Abel le bien. Et même dans la peinture, c'est ça qui est assez extraordinaire. Caïn est toujours fort, brun, vêtu de peau de bête, etc. Tandis qu'Abel est toujours long, blond et faible, voilà, etc. Et c'est assez... voilà, on a même dit que Caïn était le prototype du juif errant. Enfin, c'est quand même...
Ce qui n'était pas à l'époque un compliment. Hein.
On va dire, oui, absolument.
Ouais. Donc du coup, une image négative de Caïn. Et en fait, c'est Caïn qui survit dans cette histoire. Alors, en se frottant au texte, est-ce que ça confirme cette idée-là, hein? Et puis, d'essayer de comprendre notre idée, là, notre discussion, c'est d'essayer de comprendre. Finalement, le texte parle, si je reprends les mots exacts, le texte parle en disant Caïn apporta des produits de la terre en offrande pour le Seigneur. Abel, de son côté, apporta des agneaux premiers-nés de son petit bétail, dont il offrit au Seigneur de très beaux morceaux. Et, la phrase qui pose problème, le Seigneur accueillit favorablement Abel et son offrande, mais non pas Caïn et son offrande. Hein? Et on se demande là, il n'y a pas d'explication, il n'y a pas de justification, pourquoi il y a cette préférence? On aimerait peut-être des fois que ce soit plus explicite. Et tu disais, y a des interprétations, Saint-Augustin qui va dans les dispositions intérieures, il y avait peut-être une manière de faire qui correspondait à la volonté de Dieu.
Oui, parce que d'ailleurs il dit, si tu avais agi comme il fallait, qu'est-ce que agir comme il faut?
C'est ça. C'est ça. Mais tu vois, ces explications, moi, ça me dérange parce que c'est comme si on essayait de justifier, d'essayer de, comment dire, finalement peut-être de neutraliser tout le côté scandaleux de ce récit. Comme si on pouvait avoir le droit d'avoir des préférences, tu vois. Et on a besoin d'essayer de mieux comprendre, mais si les explications finalement nous poussent à justifier le fait de faire des préférences, ça peut devenir aussi problématique et scandaleux.
Oui,
donc,
tout à fait.
Donc, du coup, comment interpréter ce texte? Alors, on y va?
Oui, vas-y.
Je vais y aller. Alors, j'ai trouvé une interprétation qui, aujourd'hui, me semble productrice de sens.
Voilà.
Et je vais la partager avec vous. Elle vient d'un auteur qui s'appelle André Vénin et qui est en fait exégète. Donc, c'est le métier qui consiste à s'imprégner des écritures bibliques, notamment l'Ancien Testament, et en s'y frottant, essayer de produire une interprétation. Il est exégète, professeur d'Ancien Testament. Bon, alors, quelle est cette interprétation? Tout d'abord, au fond, on pourrait se dire, qu'est-ce que met en scène ce récit? eh bien, je crois qu'il met en scène une chose humaine qui peut nous arriver, qui peut-être nous est arrivée quand on a des frères et sœurs. Et je crois que ce récit, il n'est pas historique au sens, il ne faut pas le prendre comme étant une trace de ce qui serait passé, mais plutôt comme un récit qui est là et qui met en scène quelque chose que tout le monde pourrait vivre un jour. Et c'est quoi ce quelque chose? Eh bien, c'est la fraternité.
Ça me rappelle le film « À l'Est d'Éden » d'Elia Kazan.
Oui.
Où effectivement, Adam et Charles sont Caïn et Abel. L'un est parfait, l'autre ne fait que des bêtises. Et évidemment, arrive ce qui doit arriver.
Ah oui.
Je pense que l'enjeu est là.
C'est de montrer deux frères et c'est de dire que la fraternité, hein, c'est une des valeurs de la devise républicaine.
Ah oui.
Fraternité. Ouais. Eh ben, cette fraternité, elle est problématique. Cette fraternité, elle n'est jamais donnée. Cette fraternité, elle est toujours à construire. Pourquoi? Parce que au cœur de la fraternité, il se joue un drame. Le drame, c'est que l'aîné, moi, je suis deuxième dans ma fratrie. En fait, j'ai la bonne place. Pourquoi? Parce que l'aîné, quand il voit arriver le second ou la seconde, et là, je parle de masculin, mais ça pourrait être masculin-féminin, hein, peu importe.
Oui.
Mais quand une personne qui est aînée voit naître une sœur ou un frère, il est confronté à la difficulté de partager avec cet arrivant, cet intrus. Il doit partager de l'espace, il doit partager du temps, il doit partager l'amour.
L'amour des parents.
Et la disponibilité. Alors, avant de parler d'amour, comme ça, on pourrait dire la disponibilité de la maman, du papa, qui ont plein de choses à faire déjà. Et l'aîné qui était le centre du monde, qui était sorti de la cuisse de Jupiter, et bien tout d'un coup, il se retrouve détrôné. Et les seconds, les troisièmes, les quatrièmes, les puînés, eux, ils doivent toujours tenter de faire leur place. Parce qu'il y a toujours, il y a quelqu'un qui est là. Et on arrive, et moi je suis deuxième, et j'arrive, et vous m'oubliez pas quand même. L'espace est déjà occupé. Et donc, on va dire, alors qu'on dit toujours les frères et sœurs, la famille, on s'aime.
La fratrie,
tout, en fait, on a toutes les raisons du monde de ne jamais s'aimer entre frères et sœurs. Ça, c'est la base. C'est parce que, même inconsciemment, il se joue ça. L'aîné, il se fait détrôner et puis les autres, ils doivent essayer d'occuper une place qui est déjà occupée.
Ouais.
Donc, on a toutes les raisons de ne pas s'aimer en frères et sœurs, mais quand on est enfant, tout ça, pour plaire aux parents, pour, parce qu'on a besoin d'être aimé par ses parents, alors on sent que ça leur ferait de la peine si on n'aimait pas notre frère ou notre sœur. Bon, on va quand même faire un effort, quoi. Ça peut être aussi un effort d'apparence, ça peut être aussi un... C'est pas quelque chose qui est intime, qui est sincère. Tout ça, le côté vraiment sincère peut se construire, doit se construire. Donc, en fait, je crois que Adam et Ève, c'est les parents symboliques, comme ça, et Caïn et Abel sont les deux frères qui arrivent. Et qu'est-ce qu'on remarque? Alors ça, c'est fabuleux. Qu'est-ce qu'on remarque? Tu te rappelles la phrase qu'a dit Ève au moment de la naissance de Caïn?
J'ai acquis. Non, c'est pas...
Oui. Tu sais comment... Alors, vas-y, j'ai acquis...
Alors, je ne me souviens plus, mais oui, c'est j'ai acquis un fils ou...
Un homme
un homme. Je ne me souviens pas, non, honnêtement.
Tu l'as sous les yeux, là?
Je l'ai là. J'ai fait l'acquisition d'un homme avec le secours de l'Éternel. Voilà.
Alors, ça, c'est gentil.
Oui. Et après, elle aura sept.
Abel. On va y venir. Mais ça, c'est gentil de dire avec le secours de l'Éternel. Parce qu'en hébreu, c'est j'ai acquis un homme avec le Seigneur.
Ah.
Et alors, moi, j'ai deux problèmes. Il faut qu'on accélère. J'ai deux problèmes. D'abord, le acquis. Tu sais comment ça se dit en hébreu?
Non.
Kaniti. Kaniti, ça te fait penser à quoi?
Caïn.
Eh oui. Et donc, il y a une sorte de jeu de mots, de proximité en disant j'ai acquis, Caïn, un homme avec le Seigneur. Il est où le père? Il est où Adam dans tout ça? Le père, il est là. La mère, là, la mère, elle est en pleine possession de son Caïn. D'accord? Une relation de possession où le mari est évincé, le père, on n'en parle plus. Il est remplacé par le fils et le fils doit combler tout le désir de la mère.
Qui fait d'Adam un Joseph.
Oui,
alors, de son.
Ah oui, on pourrait y venir. Et puis, alors, avec le Seigneur, c'est-à-dire que le père, il n'existe plus, mais c'est Dieu. Alors, c'est carrément Dieu qui doit faire office de père. Bon. Par contre, à la naissance d'Abel, tu peux me dire la phrase d'Ève à la naissance d'Abel. Parce que Ève, elle a sûrement dû dire quelque chose quand Abel est né, non?
Attends. Elle mit encore au monde Abel son frère, Abel était berger et Caïn laboureur. C'est tout, elle mit encore au monde Abel son frère.
Elle est où la parole de la mère là? La mère, elle parle pour Caïn, mais elle ne parle pas pour
elle
Abel.
Elle ne parle pas pour Abel, non.
À la naissance d'Abel, et tu sais que le prénom Abel, tu sais ce que ça veut dire en hébreu ?
Non.
La fumée, la buée, l'inconsistance, l'évanescence. Ouais. Eh bien là, Abel, il est transparent. La mère ne lui adresse aucune parole. Il est né, il est là, il est présent, mais rien. Hein ? À Caïn, on parle, on dit « Ah, j'ai acquis, là, voilà, c'est mon objet que j'ai réussi à produire et tout. » Mais là, rien. Et donc, du coup, il n'y a aucune parole de la mère qui institue Abel comme tiers, comme frère vis-à-vis de Caïn. Abel, il est, comme son prénom l'indique, transparent. Il n'existe pas, si tu veux, dans le côté des relations familiales. Alors, dans ces conditions, est-ce qu'il faut s'étonner que Caïn soit saisi d'une convoitise jalouse qui le pousse à évincer son frère, qui constitue à ses yeux un obstacle ? Parce que qu'est-ce qui se passe ? C'est que quand l'un et l'autre arrivent avec des offrandes, qu'est-ce qui se passe ? Ben, tout d'un coup, Caïn réalise qu'il a un frère. Et comment il le réalise ? Mais c'est parce que celui qui fait office de père, eh ben, il joue son rôle de père, c'est-à-dire qu'il met du tiers. C'est-à-dire qu'il montre à Caïn, écoute Caïn, regarde ton frère, eh ben, il existe aussi. Il a aussi fait une offrande. Et est-ce qu'il alors, si je vais durcir le trait, le récit ne nous dit pas qu'il n'a eu des yeux que pour Abel. Hein. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que pour une fois dans le récit, Abel, on en prend... on a une attention sur lui. Et en faisant ça, Dieu joue le rôle de tiers, joue le rôle de père, qui vient rappeler à la mère que hey, t'as un deuxième fils, et puis qui vient rappeler à Caïn que t'as un frère. Et donc, dans ce récit, mon interprétation, en m'appuyant sur les réflexions là, de ce théologien qui s'appelle André Vénin, c'est que Dieu cherche à aider Caïn à se rendre compte qu'il a un frère, à accepter qu'il a une altérité. Ève a fait de Caïn son tout, j'ai acquis, c'était mon bien. Et puis Caïn, il vit dans cette réalité-là, il est tout aux yeux de la mère. Ève enferme Caïn dans une confusion, et bien ce récit nous dit, Dieu, il est où dans cette histoire ? Il est dans celui qui ouvre une brèche. Il est dans celui qui vient rappeler qu'il y a une altérité, qu'il y a un homme qui s'appelle Abel, qui a une place dans cette constellation familiale.
Oui, c'est intéressant, c'est très très intéressant. J'avais lu aussi, faire suite à ce que tu disais en hébreu, en fait, apparemment, j'ai vu qu'il y avait au moins quatre acceptions, dont celle dont tu as parlé, et il y en a une que je serais incapable de prononcer, mais qui serait la jalousie aussi. Cnu ou quoi, Q-U-A, qui serait la jalousie, voilà. Et puis le forgeron, mais ça, on en parlera après, c'est lié à la...
Mais tu vois, la jalousie, c'est
ça. Mais c'est, voilà. Et la jalousie, voilà, c'est constitutif de son prénom. C'est assez extraordinaire.
C'est ça. À mon avis, cette histoire nous parle de la jalousie en nous invitant à nous arrêter et à accepter que, finalement, nous aussi, nous soyons aux prises avec de la jalousie. Et ce récit, qu'est-ce qu'il vient dire ? Il vient dire que cette jalousie... c'est pas immoral d'être jaloux. C'est pas immoral. Tout le monde est jaloux. La question, c'est comment j'accepte cette réalité, comment j'en parle, comment je parle avec celui dont je suis jaloux pour que ma jalousie ne devienne pas un monstre qui me submerge et qui fait qu'à un moment donné, je commets des actes qui poussent à tuer l'autre au lieu de parler avec lui. D'ailleurs, dans cette histoire, tu vois qu'il est dit à un moment donné qu'ils partent au champ, d'accord ?
Tout à fait.
Et il est dit que le texte exact, c'est
il
quoi ?
Il parle.
Cependant, Caïn s'adressa à son frère. Qu'est-ce qu'il lui dit ?
Ça n'est pas dit.
On ne sait pas.
Non, ça n'est pas dit.
On sent que la parole, si tu veux, elle n'arrive pas à exister dans cette relation. Et parce qu'elle n'a pas de place, parce qu'on ne sait pas, tu vois, elle produit une animalité en Caïn qui fait qu'il assassine son frère.
Oui.
La jalousie, quand on ne lui fait pas de place, elle nous rend bestiales.
Oui, parce que Caïn avait le choix quand même. Si, avant le meurtre, Dieu lui l'appelle à dominer cette pulsion meurtrière quand même. Il ne le culpabilise pas, il le responsabilise, mais ça n'est pas entendu.
C'est ça.
C'est ça qui est est dramatique, en fait.
Oui, c'est dramatique, mais la Bible ne s'arrête pas là. C'est-à-dire que, effectivement, je suis tout à fait d'accord avec toi que, là aussi, dans ce récit, Dieu, c'est cette parole qui dit, deviens humain. Et comment tu peux devenir humain? Eh bien, justement, en apprenant à dominer cette animalité qui est en toi. C'est pas facile. C'est pas parce qu'on l'a dit. Et c'est pour ça que la Bible est un livre de milliers de pages. C'est que là, on est au tout début de la Bible. Et le récit de Caïn et Abel dit une chose. Mais après, au fond, l'enchaînement de tous les récits a pour but de nous faire découvrir ce que ça voudrait dire dominer cette animalité. Mmh. Et en fait, cette animalité, elle pourra être dominée. Alors, on pourra voir différents récits. Il y a le récit de Joseph, il y a l'attitude de Jésus. Mais c'est une promesse. Là, ça teinte comme une promesse. Jusqu'à ce qu'elle soit réalisée, il faut parfois un long, long, long chemin.
Merci beaucoup. Je pense que c'est le mot de la fin quand même, là.
Tu crois ?
Non, je ne sais pas. Oui, je trouve que ça finit bien le propos. Mais bon, c'est toi qui...
C'est moi qui dois choisir le mot de la fin ?
Absolument, oui, tout à fait.
Mais
tout
non, alors écoutez, chers auditeurs, en tout cas, nous allons continuer cette exploration. Adam, Caïn et Abel, ce n'est pas terminé. On vous donne rendez-vous pour une prochaine émission de la Bible Parfum de Scandale, autour de ce même texte, pour voir... encore d'autres choses, parce que nous ne sommes pas au bout de nos surprises, parce que dans Parfum, il y a cette fragrance qui nous éveille aussi à de la lumière, à de la beauté, et il y a aussi cela dans ce récit et dans chaque récit des Écritures. En tout cas, on espère que ça vous a apporté un peu de saveur et un peu
de parfum.
C'était La Bible Parfum de Scandale, à retrouver en podcast, en écoute à la demande ou téléchargement gratuit sur radiofmplus.org.